BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file rejoindre une salle de marché. En l'occurrence, c'est celle d'Odo BHF qui nous ouvre ses portes et pour nous y accueillir, Mickaël Jacobi. Bonjour, Mickaël.
Bonjour.
Bon, on est sur une forme de mode pause avant 14h30 et l'emploi américain ?
Oui, c'est tout à fait le mood de la journée. On est face à des investisseurs qui sont quand même plutôt tétanisés, hein, ils savent pas trop quoi faire. On est dans un volume d'échange assez faible. On a des marchés qui sont quasiment à l'équilibre, légèrement à la hausse, là actuellement légèrement à la baisse, autour des 5935 points sur le CAC. On a effectivement quelques actualités quand même sur les technologiques. On a un relèvement de guidance, mais avant le chiffre de l'emploi aux États-Unis, pour l'instant, personne a vraiment envie de se positionner directionnellement et on est vraiment dans une attitude d'attente.
Voilà donc le cadre dans lequel on évolue et puis quelques dossiers que vous regardez, dont Renault.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une des plus belles performances aujourd'hui, en tout cas sur le CAC, Renault, qui bénéficie d'une revue à la hausse de notre recommandation. Donc, on est sur surperformé. On voit un target de 55 euros. On est probablement une des maisons les plus boules sur le dossier Renault, avec une très jolie perspective 2022-25 d'offensive commercial du line-up des voitures de chez Renault. On a donc fait un très joli business case là-dessus et à mon avis c'est un dossier qu'il faudra garder en tête. On est face à une valorisation assez faible et un dossier qui, si effectivement nos projets se réalisent nos projections se réalisent pour Renault, donneront une très belle performance boursière.
Voilà donc pour ce titre Renault qui figure effectivement en haut des palmarès ce matin. Et puis les technos qui vous intéressent également.
Oui, alors c'est effectivement le compartiment technologique qui aujourd'hui pâtit et qui cède près de façon générale quasiment 1,5% sur ce segment-là. Donc on a des résultats et surtout des projections de Samsung Electronics qui sont en dessous du consensus. On a également un ton assez en berne chez AMD et donc du coup nos technologiques baisse en fonction. On a STM qui est à moins 2,5 et tout le secteur est assez vendu aujourd'hui.
Merci beaucoup Mickaël Jacobi, Odo BHF qui nous accompagnait ce matin pour jeter un œil sur cette séance à l'entame de cette deuxième heure juste après les marchés. C'est l'info éco avec Claire Sergent.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une de l'actualité économique ce matin, cette réunion des 27 pour discuter d'un plafonnement des prix du gaz. Les chefs d'État de l'Union européenne se retrouvent à Prague. Des représentants ont déjà averti. Il est peu probable que des mesures concrètes soient décidées directement. Il faut mettre tout le monde d'accord. La France fait partie de ceux qui vont militer pour le plafonnement. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui était sur BFM TV.
D'abord, il faut un traitement de fond. Le traitement de fond, c'est plafonner le prix du gaz, c'est découpler le prix du gaz et de l'électricité, notamment lorsque l'électricité est produite à partir du nucléaire. C'est ce qu'a travaillé d'arrache-pied le président de la République française au niveau de la Commission européenne. Nous avons désormais une position européenne très claire. Nous nous harmonisons avec les Asiatiques qui font face aux mêmes difficultés et nous demandons aux pays producteurs, notamment la Norvège et les États-Unis, de faire en sorte que les prix que nous ayons à payer ne soient pas quatre fois les prix du marché.
Et dans ce contexte de tension énergétique, le déficit commercial de la France se creuse encore. Il s'établit à 15,3 milliards d'euros fin août. Selon le Bureau des douanes françaises, c'est un demi-milliard de plus que fin juillet. Le gouvernement demande aux groupes pétroliers de faire des efforts sur les salaires. Les grèves durent depuis 10 jours, notamment chez Total Energy, bloquant plusieurs raffineries. Des stations-service se retrouvent à sec. Les files d'attente s'allongent. Olivia Grégoire appelle les entreprises concernées qui, pour la plupart, plupart ont quand même de bons résultats, précise la ministre déléguée au PME, a considéré les demandes d'augmentation de salaire. Et les États-Unis cherchent la réponse appropriée à Riyad, l'Arabie Saoudite et ses partenaires de l'OPEP+, qui ont décidé de baisser drastiquement leur production de pétrole, alors que Washington souhaitait l'inverse. Anthony Blinken, le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, dit étudier plusieurs réponses et consulter le Congrès. Parmi les pistes envisagées, couper les ventes d'équipements militaires aux Saoudiens. Et puis dans l'affaire Twitter contre Elon Musk, les deux camps ont jusqu'au 28 octobre pour s'entendre, alors que le milliardaire a annoncé il y a deux jours qu'il voulait en fait toujours acheter le réseau social au prix convenu au départ. La méfiance règne, Twitter ne renonce pas à son procès. Le juge leur accorde donc 10 jours de plus pour trouver un accord.
Claire Sergent qui nous accompagne ce matin pour vivre au rythme de l'actualité économique. Le marché parisien, lui, est de retour dans le vert. On progresse de 0,12%, 5 943 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé avec autour de la table Rachid Medjaoui et Emmanuel Salle. Bonjour messieurs.
Bonjour Sylvie.
Et merci d'être là ce matin. Rachid pour Louvre Banque Privée et Emmanuel pour Financière de la Cité. D'abord, votre premier regard sur cette tendance de marché. C'est vrai qu'on se demande si on a vu le plus bas, on se demande s'il y a de quoi repartir plus haut. La séance de mardi a été quand même assez atypique. Comment voyez-vous les choses, Emmanuel ?
J'ai le sentiment que les marchés sont toujours suspendus aux lèvres des banques centrales, et bien sûr principalement celle de la Réserve fédérale américaine, mais également celle de la BCE. On sait que depuis maintenant plus d'un an, toutes ces banques centrales sont engagées dans un resserrement monétaire tout à fait inédit. Je pense qu'il faut remonter aux années 70, voire aux années 30, pour connaître une telle contraction des concours à l'économie. Alors, ça peut être justifié aux États-Unis où effectivement, on a une demande interne qui est vigoureuse et qui se traduit par une amélioration très nette du marché de l'emploi. Ça pose beaucoup plus de difficultés en zone euro. Ça pose plus largement des difficultés pour l'ensemble de la sphère financière, dans un contexte où beaucoup d'investisseurs ont pris du levier sur les marchés obligataires. Et on a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours en Grande-Bretagne. C'est de nature effectivement à créer de nouveaux chocs financiers, et donc tout cela justifie quand même un certain attentisme des investisseurs. Il faut dire que des taux d'intérêt plus hauts, ça pèse sur la croissance, ça pèse sur l'emploi, ça pèse sur les situations financières, et ça pèse bien évidemment sur les valorisations des marchés d'actions. Donc il est assez normal qu'on ait des marchés hésitants en cette fin de semaine.
Rachid ?
Des marchés hésitants, je dirais même très nerveux, parce que effectivement il y a des défis de court terme. Vous venez de les citer. La question, c'est on a brisé tous les tabous en termes d'anticipation sur les banques centrales, puisque il y a encore quelques mois, quand on osait penser que la Réserve fédérale pouvait aller au-delà de 3%, ça semblait hors de propos. Aujourd'hui, on se demande si le seuil ou la barre des 5% va tenir, et à juste titre, parce qu'ils ont un vrai problème inflationniste. Et Monsieur Powell, je crois qu'on l'a peut-être pas suffisamment écouté, mais il a même repris quasiment la même phrase que Mario Draghi il y a quelques années, quand Mario Draghi avait sorti son Whatever It Takes. Il avait dit « Believe me, it will be enough ». Croyez-moi, ça sera suffisant. Et en fait, Powell a pas dit de whatever it takes, mais il a dit believe me, it will be enough. C'est-à-dire que je ferai ce qu'il faudra pour casser l'inflation. Et donc, est-ce que l'inflation va revenir dans son lit en 2024? Ça va beaucoup dépendre des salaires. Si vous faites une petite règle de 3, vous dites que la productivité américaine aujourd'hui, c'est 1,5. Les salaires, c'est pas loin de 6%. Si vous voulez ramener votre inflation autour de 2%, des taux à 4,5, 5, c'est plutôt un minimum, plutôt qu'un maximum. Mais ça a été tellement vite que le marché se dit, c'est pas possible, l'économie va pas pouvoir le supporter. Ça, c'est le court terme. Mais il y a peut-être plus compliqué. C'est comme on a des événements qu'on n'a pas vus depuis 40 ans ou 50 ans, voire même depuis 1930, on se demande si on n'est pas en train de changer d'époque et quel va être le niveau d'équilibre. Et parmi les questions, ça va être quoi l'équilibre entre des politiques monétaires qui, certes, ont décidé de passer la main aux politiques budgétaires à l'occasion du Covid, et des politiques budgétaires qui, quand même... le quoi qu'il en coûte, là, ça se multiplie. Parce que quand on regarde ce qu'ont fait les Allemands il y a 2-3 jours, où ils mettent sur la table 5 points de PIB comme ça, rapidement, après avoir mis déjà 2,5 points de PIB sur la table pour justement ce bouclier énergétique, eh bien, on est en train de se demander, voilà, est-ce qu'on rentre dans une nouvelle ère keynésienne, comme on a pu connaître après la Seconde Guerre mondiale, et dans ce cas-là, les politiques monétaires, effectivement, le niveau des taux d'intérêt, ce qui s'est passé au Royaume-Uni est également une alerte. Voilà, donc c'est pour ça que on est extrêmement nerveux, parce qu'à moins 25, Cédric, quand on regarde les bear markets depuis 1950, la majorité des bear markets se sont arrêtés autour de moins 25. Donc, ouais, en réalité, on devrait plutôt être en train d'acheter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait un petit peu chez Louvre.
Bon, on reviendra sur de la stratégie un petit peu en fin de propos, mais vous soulignez tous les deux les points parfois qui sont révélateurs du marché. Il y a eu ces derniers temps une grosse tension sur le marché obligataire. Certains parlent même de crack obligataire. Comment vous analysez ce qui s'est passé sur ce marché ces derniers jours? Ces 10 derniers jours.
Oui, bah écoutez, effectivement, on peut se poser la question. Vous savez, il y a eu un bon article qui a été publié par la Fed de New York qui parlait notamment du niveau du taux d'intérêt naturel. Vous savez, le taux d'intérêt naturel, c'est finalement le niveau au-delà duquel une banque centrale ne doit pas aller, sinon elle va casser l'emploi. Enfin, c'est le niveau d'équilibre finalement qui permet de balancer à la fois d'un côté l'inflation et de l'autre côté l'emploi. À côté de ce taux d'intérêt naturel qu'on appelle le R-star, il y a, semble-t-il, le R-double-star. Et ça, c'est le taux d'intérêt naturel, mais finalement qui permet de ne pas, au-delà duquel finalement on va taper la sphère financière. Et donc c'est là le sujet, c'est qu'en fait tout en luttant contre l'inflation, les banques centrales, elles risquent d'impacter la sphère financière, parce qu'il est vraisemblable que ce taux d'intérêt naturel du secteur financier, ce R double star, il est généralement dans les grandes économies financiarisées comme le sont la Grande-Bretagne et les États-Unis plus bas que le R star. Et donc le problème s'est posé clairement au Royaume-Uni. Donc on aurait tort en zone euro de se réjouir avec une forme de schadenfreude, de joie mauvaise de ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que ça nous guette également. Parce que le Royaume-Uni, il est beaucoup moins endetté finalement que la zone euro. Mmh. Les problématiques auxquelles il est confronté sont moindres aussi. Et donc, finalement, ce qui s'est passé avec la Banque d'Angleterre qui a été obligée de revenir dans les opérations quantitative easing pour freiner la remontée des taux d'intérêt, ça peut se produire dans d'autres.
Donc, vous nous dites, oui, il y a une question spécifique au Royaume-Uni, mais pas que.
Mais pas que. On a vu effectivement le problème des fonds de pension britanniques, mais on parle du Crédit Suisse. On sait que le marché du crédit, notamment, est extrêmement tendu. Donc d'autres situations de ce genre peuvent se produire, effectivement.
Rachid, ce mouvement obligataire, singulièrement britannique ou pas que britannique?
Bon, je pense qu'il faut rester prudent à ne pas généraliser la situation britannique. Je pense que la situation britannique, et on l'a connue au fond pendant la crise de la zone euro, ils ont un problème, c'est que c'est quand même un pays qui a la plus grosse balance des paiements, la plus déficitaire du monde, des pays développés. Quand vous avez une balance des paiements à moins 8 déjà, et que vous vous amusez à baisser comme ça violemment vos impôts pour faire du dumping fiscal sans proposer une stratégie de financement de moyen terme, ça s'appelle de la fuite en avant, et donc le marché l'a sanctionné. Donc la zone euro aujourd'hui n'est pas dans cette situation, même si le choc énergétique fait qu'une bonne partie de notre avance en termes de balance des paiements a été mangée. Sur la partie obligataire, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous savions, Cédric, vous le savez, nous avons passé ces 10 dernières années à se dire mais pourquoi les taux sont aussi bas? Et à l'époque, c'était parce que les banques centrales voulaient lutter contre la déflation, et donc elles sont allées. Donc on est en train simplement, on connaît ça. C'est le balancier a été trop loin certainement quand on a fait du quantitative easing, du taux d'indicatif. Là, le balancier est obligé d'aller un peu plus loin parce que les banquiers sont trop. Et vous le savez, tout le monde a appris finalement ce qui s'est passé dans les années 70. Il faut mieux agir vite. Et très rapidement, je pense que si elles avaient commencé, la grosse erreur, c'est qu'elles n'ont pas commencé à durcir en 2021. Ouais. Alors même que tous les experts en
ça veut dire voilà. Que ça veut dire que de cette situation, on va dire à l'origine britannique,
oui,
nos banquiers centraux, quels qu'ils soient entre guillemets, doivent en tirer des leçons.
La leçon, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné, mais personne ne connaît le niveau. Il y a une Monsieur Powell a quand même communiqué sur le fait qu'il voulait au moins des taux d'intérêt réels de 1%. Mm-hmm. Bon. Alors, si vous regardez, par exemple, les anticipations aujourd'hui, et c'est un peu l'indicateur de crédibilité de Powell, vous dites qu'effectivement, dans un an, si l'inflation revient à 3, il faut au moins des taux d'intérêt à 4. Voyez, donc le problème, si vous voulez, c'est que le monde est beaucoup plus endetté qu'il y a 15 ans, et que, a priori, et ça fait peur un peu tout le monde, et peut-être que cette hausse des taux va effectivement finir par déstabiliser. L'indicateur que nous regardons tous, qui est à la fois un indicateur de risque, mais également un indicateur d'opportunité, et nous on le voit plutôt comme ça, c'est ce qui se passe sur le marché des obligations privées, où là pour le coup, vous disiez, est-ce qu'on a eu un crack ? On a eu un crack obligataire, c'est le pire crack des obligataires qu'on ait connu depuis les années 30. On regarde les sociétés, et pour le coup, quand on regarde les sociétés, on se dit quand même, les bilans sont plutôt sains, il n'y a pas vraiment de mur de la dette. Donc on est extrêmement tenté de revenir, parce que nous avons des taux d'intérêt sur des obligations de bonne qualité, hein, l'investment grade. On est tenté, alors on n'y revient pas, parce que il y a un élément quand même central du marché obligataire, et c'est ça qui peut se transformer en risque systémique, c'est que la liquidité, mais c'est pas nouveau, hein, mais la liquidité est devenue extrêmement faible. Et c'est ça qui peut, à un moment donné, faire que vous ayez des situations de stress, pas à cause des fonds de pension, mais à cause d'acteurs qui se retrouvent, par exemple, en appel de marge, être obligés. Et là, les banquiers centraux, effectivement, peuvent faire ce qu'a fait la Banque d'Angleterre, venir éteindre le feu, mais sans remettre en cause. La Banque d'Angleterre n'a pas remis en cause sa politique de
hausse des taux. Non, mais il y a des leçons à tirer, effectivement, pour tout le monde. Bien surtout sûr, si le problème n'est pas que britannique.
Absolument, le problème n'est pas que britannique. Alors moi, je serais d'un avis peut-être un tout petit peu différent sur l'inflation. Je pense qu'autant les Américains ont bien fait de commencer à remonter les taux d'intérêt. En revanche, en zone euro, je ne vois pas les raisons pour lesquelles aujourd'hui on pratique un resserrement monétaire aussi fort. Et je pense que ça pose quand même de vraies difficultés. C'est aussi la raison pour laquelle finalement les répercussions de ce mouvement de resserrement monétaire sur le marché des obligations peut conduire effectivement à se dire, est-ce que c'est pas le moment y revenir, hein, lorsqu'on a des taux d'intérêt nominaux, j'entends qu'ils sont proches de 4% sur certaines signatures d'État, et également des obligations investment grade qui sont de très bonne qualité et dont les émetteurs ne présentent pas de problématiques de financières, je dirais, c'est également certainement une classe d'actifs qui va falloir commencer à remonter. Le problème qui se pose, c'est l'impact de ces remontées de taux, de ce resserrement monétaire, de ces sorties du quantitative easing sur l'ensemble de l'économie. On a bien vu avec l'exemple anglais qu'il y avait des banques centrales qui était prête à changer d'avis, parce que finalement c'est ce qu'a fait la Banque d'Angleterre en rachetant de la dette britannique. Est-ce que la BCE est capable de changer d'avis ? La question se pose, et je crains qu'elle ne soit, comment dire, engagée d'une forme de clôture dogmatique qui ne nous prépare pas nécessairement des lendemains qui chantent du côté de l'économie.
On est entre guillemets à l'étranger avec l'Angleterre. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes à l'étranger ? Est-ce qu'il y a un problème italien ?
Ah oui, moi je pense qu'il y a un problème italien. Il y a un problème italien qui est lié tout simplement au fait qu'il n'y a pas de croissance en Italie depuis 10 ans. Il faut savoir que le salaire réel moyen par habitant...
Mais je veux dire, le problème italien ne s'est pas accru avec l'arrivée de Meloni au pouvoir.
Non, il est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que j'ai regardé les chiffres, le salaire italien, le salaire moyen après inflation en Italie, il est en baisse de 3% depuis 1999. Donc les Italiens, ils sont bien accrochés finalement de rester dans l'Europe. Hein. Ils n'auraient qu'un seul intérêt d'ailleurs, c'est finalement d'en sortir, puisque c'est un pays exportateur, c'est un pays industriel, c'est un pays qui est en situation d'excédent budgétaire primaire. Le problème, leur avantage aussi, c'est qu'ils préfèrent rester dans l'Europe, ils préfèrent rester dans l'euro. C'est un membre fondateur de la CECA, c'est un membre fondateur de la zone euro. Pour eux, le fait d'être dans le système européen, c'est la fameuse théorie du lien externe, du vincolo esterno, comme il dit. C'est un moyen, finalement, c'est un rempart contre les errements politiques, les errances politiques. Et c'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui avec Meloni, qui finalement s'est ralliée à l'agenda de Draghi. C'est une forme de techno-souverainisme, comme dit le rédacteur en chef du Grand Continent.
Est-ce qu'il y a un problème italien ?
Il n'est pas récent, parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de taux de productivité. Vous savez, l'Italie a un double problème structurel. C'est effectivement une croissance par tête d'habitant extrêmement, extrêmement faible, une productivité très faible, et surtout un vieillissement de la population dramatique. Les projections à 2100, c'est il y a plus de 15 millions d'Italiens. Enfin, ça. Donc, ils ont un modèle économique. Maintenant, je voudrais pas non plus tirer sur l'ambulance. Je pense que le problème, si vous voulez, c'est qu'ils ont fait énormément de réformes quand même depuis 20 ans. Ils ont depuis 20 ans un solde primaire positif, ce qui fait qu'ils font des efforts. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on avait repris un peu d'espoir avec l'arrivée de Draghi. Pourquoi ? Parce que l'Italie, comme vous le savez, est un des très gros, si ce n'est le plus gros bénéficiaire du plan de relance européen.
191 milliards.
Voilà, donc c'est quand même pas rien.
On dit pas non facilement à 191 milliards.
Draghi avait commencé un certain nombre de poursuivis, ou en tout cas, et on avait plus de visibilité sur l'exécution. Là, avec Meloni, il faut pas lui, voilà, il faut, on verra bien ce qu'elle va, quel premier ministre, quel ministre pardon des finances elle va nommer. Ça va être très intéressant, mais c'est le risque d'exécution qui pose problème. Après, j'ai peut-être, voilà, une vision moins apocalyptique de la place de l'Italie dans l'Europe. Je pense qu'elle a sa place, et finalement, si on commence à, j'irais tirer sur l'Italie, on peut également être extrêmement critique vis-à-vis de la France, parce qu'à certains égards, on fait pas mieux.
Bon. Et puis alors, question qui peut paraître saugrenue, mais vous l'avez un petit peu évoqué, est-ce qu'il y a un problème allemand ?
Bah, oui, bien
parce que voir l'Allemagne mettre 200 milliards comme ça, sans aucune concertation.
Il y a un problème allemand. Finalement, la question même doit se poser, est-ce que véritablement l'Allemagne souhaite jouer le jeu européen ? On a vu il y a 10 ans au moment de la crise financière qu'il avait fallu tout le poids de Sarkozy, d'Obama pour convaincre Merkel à s'engager dans des opérations de rachat de titres. Elle l'avait fait vraiment à son corps défendant et tardivement. Là, on a vu également que pour le Covid, ça a été assez compliqué de mettre en place des dispositifs communs d'achat de masques et de dispositifs médicaux, de vaccins, etc. Là, les Allemands, une nouvelle fois, font cavalier seul, alors que c'est finalement eux qui nous ont mis dans cette situation depuis 10 ans, avec un modèle mercantiliste, avec cette idée que finalement, l'économie allemande a fonctionné en vendant des Audi et des Mercedes au reste du monde, en achetant du gaz pas cher en Russie, quoi. Hein, donc, et en comprimant sa demande interne essentiellement, puisque si l'Allemagne est le premier exportateur, c'est pas moins lié à la qualité de ses produits qu'à la compression de sa demande interne. Donc aujourd'hui, on est en train de payer tout ça, l'Europe est en train de payer tout ça, et l'Allemagne a fait le choix, effectivement, avec ce plan de 200 milliards, de relancer toute seule son secteur économique, son secteur manufacturier. Il est vrai que comme depuis 10 ans, elle a pesé sur l'industrie française et l'industrie italienne, maintenant, son secteur manufacturier, la taille de la France et de l'Italie réunies. Donc, elle a la possibilité de faire ça. C'est un montant quand même tout à fait considérable. On est en tenant compte des mesures antérieures, par exemple, qui ont été votées il y a quelques mois, on est à 8% du PIB. 300 milliards, 8% du PIB. C'est quand même tout à fait considérable par rapport à ce que fait notamment l'Italie ou la France.
Vous considérez aussi qu'il y a un problème allemand ?
Il y a un problème de
les voir mettre 200 milliards, c'est de la distorsion de concurrence.
Je serais plus prudent là-dessus, mais il y a clairement un problème de communication. Après, il faut comprendre que tout le monde aujourd'hui est en train de stresser sur est-ce qu'on va passer l'hiver, mais au-delà de l'hiver, comment garantir sa sécurité énergétique, et parce qu'ils ont été se mettre effectivement complètement dans les bras de la Russie ces dernières années, ils doivent plus que d'autres, et plus que la France par exemple, être sûrs que leur approvisionnement énergétique. Donc pareil, les 200 milliards, attention, c'est sur 2 ans aussi, c'est pas non plus donc
On voit que ça remue dans les brancards.
Non,
quand même,
mais ça remue parce qu'effectivement, si vous voulez, face à un défi qui semble plus stratégique que tactique, on aimerait vivre ce qui s'est passé quand même avec le Covid, où l'Europe a été capable d'avancer vers quelque chose d'un plus mutualisé. Vous voyez, ça aurait été l'idée quand même d'acheter le gaz en gros pour avoir des prix assez bas, et notamment vis-à-vis des Américains ou des Qataris. Ça semble quand même assez intelligent. Maintenant, encore une fois, l'Allemagne n'a pas la même urgence que la France ou l'Espagne. Et donc, ils se doivent aussi de sécuriser leur approvisionnement.
Allez, voilà pour les grands thèmes qui font pas mal bouger tout de même. On aurait pu dire aussi un mot de l'emploi américain, mais enfin on l'a évoqué rapidement au début. J'aimerais qu'on parle un peu de stratégie justement aussi pour voir comment on applique tout ça, quelles conséquences on doit en tirer dans ses portefeuilles. Qu'est-ce qu'on fait ? On se gave de valeurs défensives, on fait du portage d'obligations d'entreprise. Comment est-ce qu'on...
Bah écoutez, je pense que effectivement,
on arbitre finalement.
Pour notre côté, enfin, on reste extrêmement prudent de façon générale sur les marchés. Je pense que sur les marchés d'actions, il faut rester à l'écart de la technologie. Il faut effectivement privilégier les valeurs défensives, et notamment les valeurs défensives américaines, où on a quand même une très bonne visibilité. Je pense notamment au secteur de l'énergie, au secteur du pétrole, au secteur de la défense, à des secteurs qui seront assez résistants finalement aux hausses de taux d'intérêt à venir, dans un contexte où, encore une fois, on a aux États-Unis des conditions macroéconomiques, monétaires, budgétaires qui offrent une très grande visibilité pour les investisseurs. Et tout ça en dollars, parce que on peut le regretter, mais je crains que le dollar ne se maintienne à des niveaux élevés. Sur les taux d'intérêt, je pense effectivement qu'on peut commencer à regarder, si on a le cœur bien accroché, des obligations d'État, des portefeuilles d'obligations d'État à 5-10 ans qui permettent effectivement de bloquer des rendements. Regardez également les obligations d'entreprise de bonne qualité, en revanche rester à l'écart du high yield, des titres à haut rendement sur lesquels là on a quand même beaucoup plus de à mon avis de choc à venir. Enfin, je pense qu'il y a une classe d'actifs qui aujourd'hui me paraît absolument stratégique dans les portefeuilles, c'est l'or. Tout simplement parce que l'or, il est corrélé aux anticipations d'inflation, non pas à l'inflation réalisée, mais aux anticipations d'inflation, aux anticipations négatives des consommateurs, au PIB, et également aux stratégies des banques centrales. Et je crois que ces facteurs aujourd'hui, ils sont plutôt dans le sens d'un favorable à l'or. On voit bien que les anticipations des consommateurs, ils pensent qu'il y aura plutôt de l'inflation, ils sont plutôt inquiets sur l'avenir. Le PIB, il va plutôt augmenter en général, et comme tout l'or du monde est sur la table, ça veut dire davantage de ressources pour acheter une quantité finie. Et s'agissant des taux d'intérêt réels, là également, je pense que l'inflation, quelle que soit l'inflation, les banques centrales ne peuvent pas se permettre de casser l'économie pour sacrifier, en quelque sorte, l'activité sur l'autel de l'inflation. Et donc, je ne serais pas surpris quand même qu'on ait certes une remontée de taux d'intérêt, mais que les taux d'intérêt réels restent quand même durablement bas, en fait, eu égard à l'inflation constatée. D'ailleurs, on voit bien que l'idée d'avoir une inflation aux alentours de 3% commence à infuser dans un certain nombre de cercles de dirigeants, notamment aux États-Unis. Également en Europe, d'ailleurs, il y a eu un papier du chef économiste d'Amundi il y a quelques semaines qui allait en ce sens. Et donc tout ça, à mon avis, fait qu'on doit conserver 5 à 10% d'or dans les portefeuilles.
Qu'est-ce qu'on fait dans vos portefeuilles ?
On part de l'idée que je vous disais tout à l'heure, c'est que on constate que depuis la Seconde Guerre mondiale, 50% des bear markets se sont arrêtés autour de moins 25. Et c'est ce qu'ont fait les marchés il y a quelques jours. Donc nous, on a eu tendance plutôt à refaire des achats pour être moins sous-pondérés. Donc il nous reste moins de liquidités qu'il y a 3-4 semaines. Du point de vue thématique, alors là, on essaye d'être à peu près cohérent. C'est-à-dire que si on se dit qu'on est quand même pas loin d'un pic de taux, on ne sait pas si... on pense qu'il y a quand même encore un risque de repricing d'environ 0,5% aux États-Unis ou en Europe, mais qu'on n'est pas loin d'un pic de taux, alors il faut se réintéresser aux valeurs, aux thématiques qui sont corrélées, je dirais, à ce plafonnement des taux. Et là, c'est les valeurs de croissance. Donc, pour le coup, on est peut-être un peu en différence. On se jette pas dessus parce qu'encore une fois, et on verra le chiffre de cet après-midi. Enfin, il vous a pas échappé que depuis quelque temps maintenant, c'est que bad news is good news. C'est-à-dire que dès qu'il y a une mauvaise nouvelle un peu sur l'emploi, les taux d'intérêt rebaissent fortement, les valeurs de croissance repartent. Voilà. Donc nous, on fait ça. Alors, pourquoi on se jette pas plus? Alors que même les modèles historiques nous disent qu'à moins 25, c'est en général plutôt une opportunité pour revenir massivement. Je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas réglé le problème de qu'est-ce qui se passe après 2023. Est-ce que l'approvisionnement en gaz va être assuré? Est-ce que les banques centrales vont pas être obligées de taper encore plus fort et donc pour le coup de rentrer dans des situations de carrément de risque de crise systémique? Voilà. Et puis la liquidité sur les obligations privées, c'est devenu notre élément central chaque jour. D'accord. À quel moment on revient sur les obligations privées? Je le disais tout à l'heure, faut faire très attention parce qu'une fois que vous revenez, vous êtes scotché. Il y a pas de liquidité, donc faut faire très attention. Si vous y allez et que vous voulez revendre parce que vous vous trompez quelques jours après, c'est très compliqué.
Merci à tous les deux. Rachid Medjaoui pour Louvre, Banque Privée, et Emmanuel Salle pour Financière de la Cité. Regard croisé ce matin sur l'antenne de BFM Business. Le marché parisien, il attend le rapport sur l'emploi américain. Et du coup, il s'est installé sur son niveau de clôture d'hier soir, plus 0,02%, 5937 points. N'oubliez pas non plus les replays que vous retrouvez sur vos plateformes préférées ou sur notre site pour nous écouter à votre convenance.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on est ensemble pour une demi-heure encore et on file d'abord sur le marché pour prendre le pouls de cette attente. Les yeux rivés sur 14h30, Stéphane Sauduteil, Technibourse qui suit pour nous cette matinée où effectivement les initiatives sont assez limitées, hein, Stéphane.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas de variations très très importantes. tout du moins pas engageante hein, d'un point de vue technique. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faudrait déborder 5960 points pour agiter peut-être un petit peu plus les marchés à la hausse et puis rompre 5900 points pour dégrader un petit peu cette belle semaine hein, que l'on a eue depuis lundi. Je pense que tout se jouera effectivement à 14h30. Alors, c'est vrai qu'on attend 250 000 créations d'emplois. Il faudrait vraiment, pour avoir une forte baisse ou une forte hausse, hein, vraiment un chiffre très éloigné, positivement ou négativement, des 250 000. Bon, si on a 250 000, c'est conforme un petit peu aux prévisions. On va errer, je pense, hein, jusqu'à la fin de semaine, entre 5900 et 5960 points. Donc, c'est vrai que tous les regards sont tournés à 14h30. Je retiendrai quand même cette semaine le fort rebond du pétrole. Hein, il a quasiment repris 15% depuis son point bas, ce qui a mis une pression haussière sur les matières premières qui ont pris dans leur ensemble 7% à peu près. C'est vrai que le pétrole rentre dans l'indice des matières premières, le CRB, à hauteur de 33% de la pondération, donc c'est quand même très important. Et c'est pour ça que les matières premières ont quand même nettement rebondi. Donc c'est pas très bon signe pour les prochains chiffres d'inflation. On voit qu'il y a une corrélation hein, depuis deux ans vraiment très importante entre l'évolution de l'inflation et les matières premières. Moi, c'est quand même quelque chose que je suis énormément. Donc, il est possible que la Fed continue hein, sa politique de hausse des taux. Donc, voilà, cette hausse, on peut quand même, faut la prendre comme elle est, il faut en profiter. Mais voilà, est-ce qu'elle sera d'une solidité à toute épreuve? C'est pas certain, surtout si les chiffres d'inflation continuent à rester très élevés ou progresser encore dans quelques jours. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Le pétrole aussi, on est à 95 quasiment sur le Brent. Passer au-dessus de 100 pourrait remettre de l'huile sur le feu et on pourrait aller chercher de nouveau les 110, 115. Donc ça serait pas très sympathique pour les prix à la pompe de nouveau. Et puis l'euro-dollar, on évolue un petit peu au gré des taux d'intérêt américains et du dollar aussi, hein, qui s'est un petit peu... qui a fléchi un petit peu ces derniers temps. Donc, on a une belle hausse, une consolidation. Donc, voilà, on essaye. Il y a un gros niveau sur la parité. Hein, on l'évoquait la semaine dernière. On a tapé vraiment ce niveau avant de consolider. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un point bas qui a été vraiment atteint autour des 0,95-50. Donc, c'est à surveiller pour les prochaines semaines. Donc, voilà, semaine qui a commencé très positivement. On verra si elle finit de nouveau positivement avec les chiffres du NSP à 14h30.
À suivre donc, rendez-vous est pris pour 14h30. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Sauduteil et Technibourse qui nous accompagnent ce matin. Le marché parisien, lui, fait du surplace, plus 0,1%, 5 945 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fonds.
Et Mathieu Cacchino que l'on rejoint du côté de Morningstar. Bonjour Mathieu.
Bonjour Cédric.
Vous nous parlez ce matin des fonds thématiques qui vivent une année difficile.
Et oui, effectivement, je me suis amusé à regarder les 10 plus gros fonds thématiques qui sont disponibles à la vente en France et ils affichent tous des baisses entre 17 et 30% depuis le début de l'année, alors que le MSCI World est en baisse, lui, de 13%, donc une sous-performance assez marquée. C'est quoi ces fonds thématiques? En fait, ils cherchent à exploiter des thèmes de croissance de long terme qui vont de l'intelligence artificielle, des énergies alternatives, la robotique, la fintech ou encore la gestion de l'eau. Ce qui fait qu'on trouve dans les portefeuilles de ces fonds des sociétés, parfois avec des business models qui n'ont pas encore tout à fait leurs preuves en termes de rentabilité, mais souvent des sociétés en forte croissance. Et comme les valeurs de croissance en général sous-performent depuis le début de l'année, on en a déjà parlé à cette antenne, et bien par extension, les fonds thématiques aussi sont en situation difficile.
Ce qu'il faut faire si on est déjà investi dans un fonds thématique, Mathieu ?
Je pense qu'il faut éviter de paniquer. C'est pas quand ces fonds sont au creux de la vague qu'il faut les vendre. En fait, les fonds thématiques, ils doivent vraiment être utilisés dans une optique de long terme. C'est la nature même de ces produits-là. Ils sont vraiment taillés pour bénéficier de tendances structurelles. Maintenant, la question, si vous n'en avez pas dans votre portefeuille, mais que vous hésitez à investir sur ces fonds thématiques, faut se poser, je pense, trois questions. La première, c'est est-ce que le thème est réel et durable? Est-ce qu'il a des chances de surperformer le marché sur le long terme? La deuxième, si est-ce que le fonds que vous choisissez est bien placé pour exploiter ce thème? C'est-à-dire, est-ce que le portefeuille du fonds va détenir des actions qui elles-mêmes sont positionnées pour profiter du thème? C'est pas toujours évident. Et puis, dernière question, dans quelle mesure le marché n'a pas encore pris totalement la mesure du potentiel de long terme du thème. En gros, est-ce que le cours de bourse des sociétés sur ce thème ne sont pas trop élevés? En réalité, c'est pas facile de répondre à ces questions et les chances d'avoir la bonne réponse sont assez faibles, hein, même si c'est vrai que les gains peuvent être significatifs avec ces fonds thématiques. Un petit rappel quand même de prudence, hein, si on regarde sur le long terme, le bilan des fonds thématiques n'est pas très vendeur, on va dire, hein, puisque au cours des 10 dernières années, un tiers seulement des fonds thématiques a survécu, c'est-à-dire n'a pas été liquidé et a réussi à surperformer l'indice MSCI World.
Bon, on se plonge tout de même dans vos bases, Morningstar, allez. Mathieu Cacchino, est-ce que vous avez quelques idées à partager pour ceux qui souhaiteraient quand même se lancer?
Oui, trois fonds aujourd'hui dont je voulais vous parler. Le premier, c'est le fonds Robeco Global Consumer Trend. Là, les gérants, ils investissent sur les grandes tendances de la consommation mondiale, comme par exemple la digitalisation ou encore le luxe. Donc, on trouve dans le portefeuille des valeurs à la fois bien établies, comme par exemple LVMH, mais aussi des sociétés un peu plus disruptives, comme par exemple Zoom. Alors, ceci étant dit, les gérants ont tendance à réduire la part des petites sociétés dans le portefeuille ces derniers mois, des petites valeurs qui avaient pourtant contribué au bon résultat du fonds par le passé, ce qui nous conduit à être un petit peu moins positif sur le potentiel de ce fonds-là. Sa note est passée de silver à bronze en avril dernier, mais ça reste une option tout à fait solide. Sur un tout autre thème, nous aimons bien le fonds Pictet Global Environmental Opportunities. On est là sur le terrain de l'écologie, hein, avec aux commandes une équipe de 4 gérants qui va chercher des sociétés en croissance sur ce thème-là. Entre 45 et 60 sociétés dans le portefeuille, des paris assez marqués. C'est une stratégie qui est en place depuis 2014 avec de beaux succès. Un succès qui a même conduit la société de gestion à fermer le fonds aux nouvelles souscriptions l'année dernière. Donc si vous avez ce fonds dans votre portefeuille, il y a de bonnes raisons pour le garder. C'est un fonds qui est noté bronze. Et puis enfin, si on ne veut pas choisir un thème en particulier, puisque c'est un exercice difficile en soi, on peut regarder aussi le fonds Pictet Global Mega Trends. Là, le portefeuille, c'est en fait un mix d'une douzaine de fonds thématiques gérés par Pictet, comme par exemple leur fonds nutrition, énergie propre ou encore robotique. Au final, on obtient un portefeuille peut-être plus diversifié, avec moins de risques de se tromper sur un seul thème. Et ça peut être intéressant. La plupart des parts de ce fonds sont notées bronze par notre équipe de recherche.
Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Cacchino, donc Morningstar, qui nous accompagne tous les vendredis pour quelques idées de fonds. Le marché parisien attend l'emploi américain en grignotant 0,15%, 5 944 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
11h, passé de 39 minutes, l'heure de retrouver François Monnier et Sarah Thirion. Prêt?
Oui.
Bien sûr.
Pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs. François, pour la rédaction d'Investir, Sarah Thirion pour Tipeee iCap. On commence avec vous. Tiens, Sarah, c'est Jules qui vous interroge. Quel secteur cyclique mettriez-vous en avant dans le contexte actuel?
Alors, pour sortir un tout petit peu des usual suspects qu'on a envie de mettre en avant quand il y a des remontées de taux, je recommanderais à Jules l'aéronautique civile. D'accord. En fait, en 2020, on a eu une production de nouveaux appareils qui, bien évidemment, a reflué dans des proportions qui sont très importantes, moins 40%, liées évidemment à la situation sanitaire, plus les déboires de Boeing. Et on assiste depuis quelques mois à une reprise très, très soutenue de la demande de monocouloirs. Alors, évidemment, c'est lié à la reprise de la mobilité hors Chine, mais c'est aussi lié au fait que les nouveaux appareils permettent des économies en termes de consommation d'énergie de 15 à 20%. Or, évidemment, pour une compagnie aérienne, quand la facture énergétique représente un tiers des coûts, ça a son importance puisque ça va permettre de bonifier substantiellement les marges. On a en revanche évidemment une demande qui est aujourd'hui confrontée à des problématiques de supply chain. Cependant, Airbus a tenu un Capital Market Day la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, au cours duquel il a confirmé ses ambitions de livraison cette année et le ramp-up de la production de la 320. Donc voilà, ce sont deux arguments. Le troisième, c'est que c'est quand même une filière dollar. Et aujourd'hui, on a plutôt envie de jouer un dollar bien orienté versus les autres devises. Donc, je mettrai en avant l'aéronautique civile. Et pour ne pas aller forcément sur Airbus...
C'est ça, j'allais dire, il y a voilà. Airbus surtout, mais quoi d'autre?
Il y a Airbus, il y a Safran, qui bénéficie évidemment de la reprise de la mobilité sur les activités de service pour moteurs civils, et qui va bénéficier évidemment de cette accélération de la production de nouveaux appareils, à la fois pour les moteurs et pour les intérieurs d'avions. Et dans les très petits dossiers, il y a Figeac Aéro, qui est une société qui s'est récemment restructurée en plus, qui devrait bénéficier de tout ce mouvement. Donc voilà ce que je proposerais comme secteur cyclique. Je pense qu'on est au devant d'une reprise cyclique très forte pour l'aéronautique.
Donc Airbus, Figeac et Safran. Ou Safran dans l'aéronautique. Un secteur cyclique ?
L'aéronautique, oui, ça me va bien. Fait. Airbus, ça me va très très bien. Ouais. Airbus pour le court, le moyen, le long terme. Non, Airbus, le véritable atout d'Airbus, c'est qu'on est quasiment garanti d'avoir une belle croissance bénéficiaire en 2023, alors que beaucoup d'entreprises vont devoir revoir à la baisse leurs estimations, les analystes vont revoir à la baisse leurs estimations. Pourquoi ? Parce que Airbus, aujourd'hui, ne tourne pas à plein régime. Parce que c'est extrêmement long depuis ce Covid de remettre en place la chaîne logistique d'Airbus. Il faut voir qu'Airbus, c'est quand même un paquebot. C'est 3000 sous-traitants, c'est 10 000 fournisseurs. Pour un monocouloir, il faut plus de 2 millions de pièces. Donc c'est un puzzle qu'il faut reconstituer, redynamiser. Et ça, c'est en train de on le voit, la montée en puissance des cadences de production, elle est là, elle est bien réelle. Donc ça va, 2023 sera mieux que 2022, et on peut penser que 2024 peut être encore nettement mieux.
Bon, ça, c'est donc, sur Airbus, donc.
Donc là, c'est Airbus, donc j'y crois fort. Sur les cycliques, on peut, alors si on veut du risque, il faut aller sur l'auto, hein. Il faut aller sur du Stellantis, un PER de 2, un rendement de 10, de la trésorerie, donc on peut se dire, voilà, il y aura peut-être une récession, mais ça peut pas aller à zéro, le niveau de valorisation, on est extrêmement bas. Alors, bien sûr, c'est les voitures du peuple, mais ça reste quand même très, très abordable. Donc, peut-être un peu d'automobile, et autrement, si on veut du cycle et un peu plus de volatilité, et pour espérer des gains plus favorables, ce sont les banques. Les banques, là aussi, on est sur du cycle. PER de 5, rendement de 8 pour BNP. On sait que l'univers de hausse de taux, ça leur est plutôt favorable. BNP est très, très bien géré. Et à chaque crise, ils font quelques emplettes et ça les renforce. Ils ont un bilan extrêmement simple parce qu'ils ont vendu des activités aux États-Unis. Donc voilà, donc on peut aller sur ces trois automobiles, banques et aéronautique, sachant que l'aéronautique, c'est de la cyclique, mais là, j'ai envie de dire, c'est de la cyclique quasiment de croissance, oui, presque garantie chez Airbus.
Bon, ben voilà, trois thématiques que vous pouvez éventuellement utiliser, Jules. Question de Jean-Pierre à présent, François. Jean-Pierre aurait dû vendre Worldline à 80 euros, pense-t-il. C'est revenu aujourd'hui à son prix de revient. Que fait-il ?
Oui, ça a quasiment été divisé par deux. Alors, il y a eu plusieurs sujets sur Worldline. La déconfiture, on peut l'analyser sur trois axes. D'abord, Worldline traîne le fait que ça a appartenu à Atos. Et Atos, on l'a vu, c'est déboire sur déboire sur déboire. Et donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont dit « Oh là là, c'est un actif d'Atos, on aura peut-être les mêmes déboires. » Donc ça, un problème d'image qu'il faut résoudre, qui n'est pas encore tout à fait résolu. La deuxième, c'était au niveau des valorisations. Worldline, c'était une société, parce qu'on était dans le paiement, très très forte croissance dans le paiement, ça se payait 40 fois. Arrive la période de hausse des taux, on n'accepte plus de payer une société 40 fois. Alors éventuellement, peut-être encore un peu Hermès ou Dassault Systèmes, mais maintenant, et encore maintenant, on est plutôt sur des niveaux de 30 fois. Et donc, on est passé d'un niveau multiple de valorisation de 40 fois à un peu moins de 20 fois. Donc là, ça redevient un petit peu intéressant. Et puis le troisième élément qui a joué contre Worldline, c'est le fait que il y a des acteurs comme Apple qui proposent du paiement sur smartphone. Et donc on se dit finalement où sont les frontières. Le marché a très bien compris que le paiement numérique, c'était plus pour les banques. Les banques n'ont pas les capacités financières de gérer une boîte de numérique. Et donc il fallait sous-traiter. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Parce que la sous-traitance, on sait que quand des pans entiers de l'économie se met à sous-traiter, eh bien, ça crée un marché considérable. C'est le succès de Téléperformance. Le succès de Téléperformance, c'était de dire, vous ne savez pas très bien gérer votre client, vous inquiétez pas, moi je m'en occupe. Et c'est devenu un géant dans la gestion des services aux clients. Et donc Worldline s'impose comme un géant des services de paiement. Alors on est dans un secteur là aussi comme Téléperformance en pleine consolidation. Il y a des Italiens, notamment Nexi qui est très fort. Et donc on attend des opérations de croissance externe. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut se dire que à moins de 20 fois les bénéfices, c'est tentant d'avoir du Worldline parce qu'on a une croissance du bénéfice net par action de 20% pour les années qui viennent, parce qu'on est, on est sur une très très forte croissance, même s'il peut y avoir un impact sur la récession, parce que les clients de Worldline, dans l'hôtellerie, vous payez par carte et donc ça passe par des paiements de Worldline. Mais globalement, on est sur un marché qui est en forte croissance avec des risques. Simplement, on pense que les risques, à 40 fois, ils ne sont pas dans les cours. À moins de 20 fois, ça devient intéressant. Donc oui, je pense qu'il faut garder Worldline pour Jean-Pierre. Et même si on est revenu au prix de revient, il pourra probablement gagner de l'argent dessus.
Quelque chose à ajouter sur Worldline ou pour Jean-Pierre?
Moi, je n'ai pas une passion pour Worldline parce que, en fait, sur la partie service aux commerçants, entre autres choses, ils sont quand même très offline, ce qui me paraît déjà totalement déconnecté de toute réalité. En plus, c'est un play 100% européen, ce qui est un problème en 22 et probablement encore plus en 23. Et bon, après, on peut toujours supposer qu'il y ait de la consolidation. Il y a d'ailleurs un acteur américain, je crois que c'est Global Payment, qui vient de faire l'acquisition d'un comparable américain, mais qui a une grosse exposition européenne. Donc là, peut-être d'imaginer que finalement, ce Global Payment ait peut-être des ambitions en Europe et de se dire, bah, peut-être qu'un jour, il fera ses courses chez nous, j'en sais rien. Je préfère, pour jouer cette thématique du paiement élargi, mais inter-entreprise, regarder, par exemple, du Edenred, qui répond à des besoins, je pense, assez cruciaux des entreprises qui veillent aujourd'hui à pour les flottes, à gérer leurs flux et leurs coûts, pour les entreprises à conserver leurs employés. Et donc, apporte véritablement des réponses qui me paraissent intéressantes dans le domaine du paiement. Donc voilà, je regarderai plutôt Worldline. Bon. Si toutefois il a envie de vendre ses... Edenred, si
Edenred, il a envie de vendre ses Worldline. Bon. Question que vous envoie Marie après la baisse de Téléperformance. Tiens, on en parlait à l'instant. Cette année, que pensez-vous du titre?
C'est moi?
Ouais.
C'est évidemment une incroyable opportunité d'achat. Évidemment, le titre en qualité de valeur de croissance chère à l'époque, en plus, a pâti de cette remontée des taux à marche forcée. Simplement, les réalisations sont toujours au rendez-vous. Et ça, c'est extraordinaire. Et au titre de 2022, je pense que les guidance sont sont assez conservatrices. Le groupe table sur plus de 5% de croissance organique en année pleine et sur une amélioration de la marge de 30 bips. Or, en fait, le groupe a déjà fait ses métriques cela au premier semestre, sauf que le premier semestre affrontait le plus dur effet de référence Covid. Donc on part sur un deuxième semestre qui finalement ne devrait être que la prolongation du S1 selon la guidance, sauf que l'effet de base est quand même plus facile, que l'underlying business, c'est-à-dire le business retraité de Covid, est resté très soutenu, quasiment à plus 13% au S1, et il devrait rester dans ces proportions-là au deuxième semestre. Donc je pense qu'on peut avoir une bonne surprise, un relèvement de guidance annuel chez Téléperf. Peut-être, parce que je la trouve assez conservatrice. La deuxième bonne raison, c'est que c'est un titre qui résiste hyper bien dans les périodes de crise. On se remet en 2009, chiffre d'affaires moins 1,1% en organique, quand le PIB fait moins 1,7%, et la marge baisse de 4, le ROC baisse de 14%, ou autrement dit, en fait, le ROC baisse de 26 millions. Sauf que dans ces 26 millions, il y avait une provision exceptionnelle de 21 millions pour la restructuration de Téléperformance en France. Donc, vous voyez la résistance de ce modèle. Et puis, comme le disait François, voilà, on est dans un monde où il y a une multiplication des interactions, des grandes entreprises qui ont besoin d'être accompagnées sur la customer experience, qui est un élément clé dans les services qui sont fournis par les entreprises, dans un monde de plus en plus digitalisé, un Téléperformance qui offre des prestations avec évidemment de plus en plus de valeur ajoutée, qui se désendette de plus en plus vite, qui fait des opérations de croissance externe toujours vertueuses et qui devrait renouer l'année prochaine hors scénario de récession, bon, avec une croissance très soutenue, high single digit, et la poursuite de l'amélioration de ses marges. Donc, oui, je capitaliserai sur la baisse, évidemment.
Ouais. Confiant également ou pas, François?
Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir du Téléperformance aujourd'hui dans le portefeuille, sachant que le titre a déjà perdu un tiers de sa valeur depuis le début de l'année. Et puis surtout, si on est dans un contexte où on se dit qu'il va y avoir un ralentissement économique, Téléperformance a les moyens de résister quand on regarde un petit peu son portefeuille de clients. Aujourd'hui, chez Téléperformance, vous avez plus de la moitié des revenus qui sont obtenus auprès des clients du numérique et notamment des clients digitaux présents aux États-Unis. Donc, où il y a beaucoup de sujets, de liens avec les clients. Et ça, c'est de nature, quand vous travaillez avec des clients qui, eux, sont en très, très forte croissance, eh bien, c'est de nature à bien réaliser des objectifs, voire à les dépasser. C'est vrai que l'objectif de 5% fixé de croissance organique va être largement battu. comme à chaque fois, hein, ta performance fait à chaque fois nettement mieux que ce qu'il a. Souvent, c'est même, il relève à la, plusieurs fois dans l'année ses objectifs, parce que quand il attaque une année, il a déjà 90% de visibilité, 90% du business qui est fait. Donc, on est sur une société qui déçoit quasiment jamais.
Voilà donc pour ces deux avis croisés sur ce titre téléperformance. Question que Sabine vous envoie, François, quel avenir pour Sanofi en bourse ?
Bah, on espère un meilleur avenir que, en tout cas, s'il y en a un qui a passé un mauvais mois d'août alors que le marché a progressé, c'est Sanofi. Hein. Ouais. Mais on voit que chez Sanofi, ils ont un médicament vedette qui ne finit pas de surprendre, c'est le Dupixent. Le Dupixent, c'est un traitement qui marche contre l'asthme, qui marche contre la dermatite atopique et qui a plein d'indications. Et là, on a encore eu de nouvelles indications validées par l'autorité de santé américaine, la FDA, sur le traitement d'une maladie dermatologique chronique et invalidante. Donc, on a de plus en plus de débouchés pour le Dupixent qui, en vitesse de croisière, va être capable de générer 15 milliards de revenus. Simplement, maintenant, il va falloir trouver un relais de croissance. On l'a vu, et c'est expliqué l'échec boursier du mois d'août, c'est qu'ils ont essayé un traitement contre le cancer du sein, ça n'a pas marché. Ils essayaient d'avoir un traitement contre la sclérose en plaques. Les traitements ont été suspendus. Donc, ça patine. Mais j'ai envie de dire, là où c'est pas très grave, c'est que le bilan est extrêmement solide. On a un rendement de 5% et ouais, le titre décote de 40 à 50% par rapport à ses pairs. Bon. Donc, on a moyen de patienter. Il faudra maintenant que voilà, la société se réveille, fasse probablement des acquisitions, parce que maintenant, on le sait, les grands laboratoires ne trouvent plus rien en interne et vont acheter des biotechs, sauf que les biotechs se payent très très cher. Mais là, on va avoir un banquier qui va être à la tête de Sanofi dans quelques mois, qui est Frédéric Oudéa, qui vient de la Société Générale. Donc, on peut penser que voilà, Sanofi va repasser en mode acquisition, voire acquisition massive. Il va falloir maintenant justifier un prix intéressant aussi pour les investisseurs.
Vous êtes intéressé sur Sanofi ?
C'est toujours difficile, un laboratoire pharmaceutique, de trouver le bon produit. Il y a des phases qui sont compliquées, etc. Bon, ils ont raté en plus Covid, donc ouais, c'était un coup dur. Mais je pense qu'il faut capitaliser sur cette décote maintenant, sur le dossier, pour y croire un peu en l'avenir de ce groupe. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec François.
Allez, on passe à une question que vous envoie Agnès sur la santé animale, qui Agnès trouve que ça a beaucoup souffert cette année, alors que le secteur est théoriquement défensif. C'est vrai que on a vu notamment avec les confinements, etc., que les animaux avaient le vent en poupe. Et du coup, Agnès voudrait savoir si ça vaut le coup de revenir sur ce secteur.
Elle a raison, c'est super défensif. 2020 l'avait prouvé. 2021, un marché de la santé animale à plus 10%. Les gens sont confinés, ils avaient tous envie d'un animal de compagnie. Et puis là, on revient à la réalité. La réalité, c'est que l'animal de compagnie a grandi. Donc, comme un bébé, il va moins souvent chez le pédiatre. La réalité, c'est que le pouvoir d'achat a baissé. Donc, les petits plaisirs que l'on faisait quand tout allait bien, on les fait un peu moins. Donc, la visite chez le vétérinaire, elle est limitée au strict nécessaire. Un vaccin, suspicion d'une maladie dit grave, etc. Et donc voilà, on est sur une normalisation du marché de la santé animale qui historiquement croît de 4-5%, et là on est plutôt sur du 3-4% avec un effet de base qui est élevé. Et puis évidemment, c'est un secteur qui, comme les autres, subit l'inflation. Simplement, il ne faut pas oublier que c'est un secteur qui est essentiel. Je ne sais pas si vous le savez, mais 60% des maladies infectieuses de l'homme viennent de l'animal, sont zoonotiques. Et donc en fait, quand on soigne bien les animaux, on préserve l'environnement, mais on préserve aussi l'humain. Donc c'est vraiment un secteur super important. Donc, moi, je reviendrai sur le secteur et j'aurais plutôt tendance à mettre en avant Virbac parce que, effectivement, le groupe s'est redoté d'ambition, s'est redoté d'outils industriels de pointe et s'est redoté d'un pipe qui est extrêmement enthousiasmant pour 2021-2024, qui devrait générer en pixel à peu près 215 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont remis sur les vaccins, ils sont en train de regagner des parts de marché là-dessus et c'est vraiment un segment hyper important, la prévention. Et c'est ce qui lidera le marché de la santé animale aussi demain. C'est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont très regardables. Toutes les transactions dans ce secteur-là se font autour de 5 fois le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est autour de 2 fois sur Virbac. Donc, je trouve qu'après la baisse du titre, si on prend en considération que les analystes ont fait le job maintenant de réduire leurs estimations 2023, c'est une bonne opportunité de revenir sur Virbac.
Virbac, ouais, la santé animale.
Plutôt Virbac que Vetoquinol. Hein. Virbac, on a eu une croissance à deux chiffres au premier semestre, quand chez Vetoquinol, il n'y a plus de croissance. Donc, Donc, je privilégie les valeurs de croissance. Et ces deux titres-là ont perdu plus de 30% depuis le début de l'année. Donc, tant qu'à faire, Virbac.
Virbac. Bon, écoutez, le temps imparti est écoulé. Il nous reste une question de Jacques. Ben, ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Sarah. Sarah Thirion, donc TPI Cap, François Monnier, pour la rédaction d'Investir. Dans un instant, c'est 60 minutes business et Thomas Schnell. Bonjour, Thomas.
Bonjour, Cédric. Bonjour à tous.
Votre programme de ce vendredi.
L'Europe parviendra-t-elle à s'entendre pour plafonner le prix du gaz? Une réunion se tient aujourd'hui à Prague entre les dirigeants européens. Les craintes d'approvisionnement sur l'Union européenne, justement, font peser de lourdes menaces. C'est en tout cas l'avertissement de l'INSEE qui prévoit une croissance nulle pour la France au dernier trimestre. Et puis, l'ouverture à la concurrence du ferroviaire en France arrivera-t-elle un jour? On se pose la question avec notre invité, Patrick Vieux, le vice-président de l'Autorité de régulation des transports.
C'est à suivre dans un instant, 60 minutes business. Le marché, lui, progresse de 0,23%. On est très attentiste avant l'emploi américain tout à l'heure à 14h30, 5 950 points. Vous retrouverez donc Guillaume Sommerer et BFM Bourse pour suivre tout ça. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi. Très bon week-end.
C'était votre rendez-vous avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, l'Association des professionnels de l'épargne et du patrimoine.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.